Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lâcher les papous dans la nature, et quelle nature ! Celle d'Angoulême, en plein festival de la bande dessinée, et cela donne Gailluron, Valérian, Agrippine, Jack Palmer, Blueberry. Vous les avez reconnus ? Des personnages de BD, de bande dessinée, face aux papous. Qui peut gagner ? Les personnages qui font des bulles ? C'était en janvier. Janvier, bien entendu, car le festival de la bande dessinée à Angoulême, c'était en janvier. Sinon, nous ne sommes pas à Angoulême, et il n'y a pas de bande dessinée. C'était donc le 30 janvier 2011. Attention à la castafiore.
Alors bonjour, Françoise Tressart et la bande des papous du dimanche, en direct et en public du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Espace Franquin, avec Jeanne Carillon, Hervé Letellier, Gérard Mordilla, Jacques Jouet, Patrick Beignet, Violaine Schwartz, Lucas Fournier.
Bonjour, bonjour.
Et donc, pour ouvrir ce numéro spécial, les papous des BD dans la tête, une page de pub, une publipapoucité proposée et chantée par Jeanne Carillon avec Violaine Schwartz et les chœurs des papous à Angoulême. Jeanne Carillon.
Des personnages tout droit sortis de la BD courent vers le salon d'Angoulême. Leur nom est signé à la pointe du stylo d'un H qui veut dire héros. Héros, héros,
super héros, tu fais ta loi.
Héros, héros,
de la BD tu es le roi.
Héros, héros,
héros, héros, héros.
Pour être héros dans la bande dessinée, faut jamais vieillir, être immortel. Toujours reconnaissable instantanément, pas besoin de vous brosser les dents. Héros, héros,
super héros, c'est ton emploi.
Héros, héros,
jamais l'auteur ne te renvoie.
Héros, héros,
héros, héros, héros, héros, héros.
Aucun repos pour le héros de BD. Vous ne connaissez pas les jours chômés. Même si vous tuez l'auteur qui a su vous créer, d'autres continueront de vous croquer. Héros, héros,
le temps chez vous n'a pas de limite.
Héros, héros,
tout pour une année sabbatique.
Héros,
héros, héros, héros, héros.
Pour soutenir le droit au repos des héros,
la retraite des héros à 101 ans,
le droit au changement de costume des héros,
le droit à la maternité des héros,
le droit des héros à aller chez le coiffeur, le barbier et l'esthéticienne,
le droit au congé dessiné des héros,
le droit à organiser des teufs entre héros,
tous à la manif des héros à Angoulême,
tous à la manif des héros à Angoulême.
Et justement, Jack Palmer, Monsieur Jean, Monsieur Même, Agrippine, Blueberry, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, Gailluron, Black Sinner, Valérian et Laureline, Lucky Luke, le Jôle. Pour n'en citer que quelques-uns, les personnages de BD que nous regardons tant aimeraient parfois faire une pause dans leur vie dessinée, le temps de sortir de leur rôle. La parole est à une fameuse héroïne de BD, mais Violaine Schwartz, vous êtes qui à propos ? Je ne sais pas.
Et voilà, comme d'habitude, nous voilà au cœur du problème. Françoise Renard. Oui. C'est toujours le même scénario depuis des années. Je me fais belle dans mon miroir, je me déplace, je vais à la rencontre de mon cher public, et personne ne me reconnaît jamais. De Buenos Aires à Angoulême, c'est toujours pareil. On me regarde avec des yeux ronds alors que je suis connue dans le monde entier. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Vous me reconnaissez maintenant?
Bah oui.
La Castafiore.
Oui.
Mais oui. Pardonnez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de faire ma voix aujourd'hui. Oui, 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 oui. Vous qui êtes de la partie, Jeanne Cotillon, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Un travail de titan, une discipline de fer. Un jour sans vocalise et tout est à recommencer. Et pour vous, Jacques Douai, c'est pareil, n'est-ce pas? J'aimais beaucoup vos chansons quand j'étais petite. Irma, vous vous souvenez de Jacques Douai? Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. Et voilà. En première mondiale à Angoulême, la Castafiore aborde le registre de la chanson populaire. Il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Va, baby, mon vu! Va, baby, mon vu! Va! Avec toutes ces interviews à la radio, je n'ai plus le temps de faire ma voix, c'est effrayant. Je vais être obligée de faire les deux en même temps, si ça ne vous embête pas trop. Framboise bleu rare.
Non, pas du tout, allez-y.
Quand je parle, quand je chante, j'ai toujours l'impression que ça fait des bulles. C'est comme dans un cauchemar. J'appelle Irma et je ne peux pas m'empêcher de me voir page 28 en bas de page, les bras au ciel, toujours dans la même position. J'ai toujours l'impression d'être en case, clouée sur une planche formatée à A4. Venez, venez vite, venez donc tout nu, venez, venez vite, venez donc tout nu, venez, venez vite, venez donc tout nu. Quand il est venu me voir, cet homme, là, Hervé, il avait l'air honnête, je lui ai fait confiance. Il m'a posé des tas de questions sur ma vie, mon œuvre, ma carrière, tout ça. À l'époque, j'avais un grand succès avec l'air des bijoux. Bon, mais puisque vous insistez, Framboise Bécart, je vous le rechante, ça ne me dérange pas. C'est toujours un plaisir pour moi de faire plaisir aux autres. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. C'est magnifique. Non?
Non.
Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Oui, 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 oui. Je vais vous dire, Framboise Fêtard. Vous savez comment je l'appelle, moi, cet homme? RG, Renseignements Généraux. Parce que vous voyez, il m'a pillé de pied en cap, ce Belge misogyne. Il m'a soutiré toutes sortes d'informations, l'animal, il m'a pompé le sang, je ne me suis pas méfiée. Je lui ai tout donné, et qu'est-ce qu'il a fait de moi? Une mémère ridicule, avec un double menton en galoche, une mise en plis décolorée, un bec d'oiseau, une poitrine surdimensionnée, des robes grotesques, mais quelle honte! Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert le poteau rose. Moi, je ne lis pas du tout les fanzines, j'avais complètement oublié cet Hervé, jusqu'à ce qu'un jour, à la Scala de Milan, juste avant la première de Aïda, comme par hasard, je tombe sur les 7 boules de cristal qui traînaient près de la machine à café. Comme par hasard, n'est-ce pas? Et bien, quand je me suis vue, au milieu de la page 11, quand je me suis reconnue, enfin, ou plutôt, justement, non, quand je ne me suis pas du tout reconnue, ma vie a basculé parce que j'ai avalé de travers mon café brûlant et après, c'était terminé. Impossible de chanter. J'avais le diaphragme tout retourné, la luette en goguette, les côtes flottantes en vrac, le voile du palais transpercé, le timbre collé aux narines, le contrut caféiné, les oreilles sifflantes, une horreur. Il a fallu me remplacer, au pied levé. Et qui était à Milan, en train de faire du tourisme, comme par hasard, ce jour-là, je vous le donne en mille, Maria Dallas. Un univers impitoyable. Et voilà comment on devient la plus grande cantatrice du monde, en passant par la Belgique. Mais oui, en soudoyant les bandes dessinées. Et pendant que je pleurais à l'hôpital de me voir si laid dans ce miroir, la palace est devenue la palace et moi, je suis restée blanche, chaste fleur que personne ne reconnaît jamais, alors que tout le monde connaît Bianca Castafiore dans le monde entier. Je suis même plus populaire que la palace. Moi, je mets l'art lyrique à la portée de tous. Je chante dans les bibliothèques, les écoles et même les festivals, partout. Je démocratise l'opéra. Je partage mes bijoux avec tout le monde et dans toutes les langues aussi. Or, ich lache mich so schön im Spiegel zu sehen. Et même en basque, figurez-vous. Vous vous souvenez, Irma? Irma? Et où est-elle passée? Elle doit errer dans les stands à la recherche de Raon. Elle a un petit faible pour le fils de Crado, la cochonne. Elle n'a aucune chance, la pauvre. Fagotée comme elle est, un pot à tabac. Pire que moi. Des fois, ça me console un peu, je la regarde. Je me dis que je suis mieux crayonnée qu'elle quand même, et ça me redonne du courage. Bon, je crois que je suis prête, je vais pouvoir vous chanter l'air des bijoux en entier maintenant. Mais où sont mes bijoux? Irma? Irma, mes bijoux!
Bon, elle n'est pas contente, on peut la comprendre. Jacques Jouet, est-ce que vous êtes quelqu'un dans la vie de la Castafiore
ou... Pauvre Bianca, mais oui, pauvre oui. Bianca. Je veux lancer un comité de soutien à Bianca et à d'autres d'ailleurs. Et voici le texte de ma pétition que je vous demande de signer avec moi. Puisque ces vaches de lecteurs, puisque ces vaches de lecteurs adorent se moquer des chanteurs, adorent se moquer des chanteurs. Je mets ma pétition en ligne, je signe, je signe. Je mets ma pétition en ligne. On chante trop fort ou on chante faux. On chante trop fort ou on chante faux. Comme une casserole ou comme des veaux. Comme une casserole ou comme des veaux. Je trouve la critique indigne, je signe, je signe. Je trouve la critique indigne. La Castafiore ou bien le barde, la Castafiore ou bien le barde ferait pleuvoir des hallebardes, ferait pleuvoir des hallebardes. Arrêtez qu'on les égratigne, je signe, je signe. Arrêtez qu'on les égratigne. Respectez-les, c'est des artistes, respectez-les, c'est des artistes. Ce ne sont pas des je m'en foutistes, ce ne sont pas des je m'en foutistes. Quand on les embête, je trépigne, je signe, je signe. Quand on les embête, je trépigne. On chante peut-être mal, mais on aime ça. On chante peut-être mal, mais on aime ça. On tient nos notes qu'à un quart. On tient nos notes qu'à un quart. Au grand jamais on ne rechigne, je signe, je signe. Au grand jamais on ne rechigne. Vous qui signez, soyez pas muette. Vous qui signez, soyez pas muette. Poussez un peu la chansonnette. Poussez un peu la chansonnette.
Chantez dans un cœur, c'est bon signe. Je signe, je signe. Chantez dans un cœur, c'est bon signe.
Vous écoutez Des papous dans la tête sur France Culture, en public et en direct du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. En piste, Hervé Letellier, Jeanne Carillon, Gérard Mordillat pour le petit rimailleur illustré, notre dictionnaire en vers de la langue française, dans lequel chaque définition se présente sous la forme d'un poème à dire ou à chanter. Alors, un mot de circonstance, Hervé Letellier, je vous ai confié le verbe « dessiner ». Ça oui. Se présente comment ?
Oui, je dois pour commencer, car il faut commencer, dire la vérité, je ne sais pas dessiner. Et puisque d'en parler la tâche qu'on m'a confiée, j'avoue que je ne suis pas le plus qualifié, mais qu'importe, j'y vais, je me lance aussi sec, et tant pis si pour moi c'est carrément du grec. Allons-y, dessiner, on dessine à la craie, à l'encre ou au fusain, on peut avec ses pieds, mais c'est mieux à la main. Ça, j'avais prévenu, je ne suis pas spécialiste, c'est pourquoi j'ai fait une assez longue liste.
S'il te plaît.
Oui.
Dessine-moi un mouton.
Ah oui, j'avais oublié, je traîne ce garçon depuis que j'ai subi une avarie d'avion. Un problème d'hélice, de courroie, de pignon. J'étais dans le désert lorsque, à l'horizon, je vis se dessiner son manteau à galons, ses bottes ridicules, ses cheveux couleur paille, son costume cintré lui dessinait la taille. Il avait, à vrai dire, peu de conversation.
S'il te plaît.
Quoi encore ?
Dessine-moi un mouton.
Vous voyez le problème. Tais-toi. Comme je lui ai dit, c'est un peu court, jeune homme. On charbonne, on souligne, on peint ou l'on griffonne, on esquisse, on ébauche, on trace ou l'on crayonne, on gribouille, on barbouille ou même on peinturlure. Bref, on fait plein de choses, mais dessiner, c'est dur. Je pourrais dessiner la trame d'un complot, la scène d'un roman, ou montrer tout là-haut les nuages dessinant un ciel à la Corot, une danseuse au ballet dessinant une pose, dessinant une épine ou dessinant la rose, tandis que dans l'orchestre, on n'entend qu'un clairon dessine un contrepoint au-dessous des violons.
S'il te plaît, dessine-moi un violon.
Mais tais-toi donc. On voit que se dessine une psychologie d'enfant gâté pourri, de gosse un peu bêtasse. Mes lèvres dessinaient une moue un peu lasse, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. S'il dit encore un mot, moi je pète un boulon.
Oh oui, dessine-moi un boulon.
J'enrage, tais-toi, sinon tu veux que je te fasse un dessin?
Non.
On fait entrer le verbe dessiner selon Hervé Le Tellier dans notre petit rimailleur. Alors, un autre mot qui s'impose ici, c'est le mot bulle. Bulle dans tous ses sens, mais bulle avec la subjectivité de Gérard Mordillat. Gérard, comment traitez-vous la bulle ?
Eh bien, je voudrais dédier ce poème à une actrice pour laquelle j'ai une grande admiration et qui, cerise sur le gâteau, est native d'Angoulême, donc à Bulle Augier.
Ah, bonne idée, oui. Ah ouais. Oui.
Pour toi, ma belle, ce libelle, léger comme une bulle, un libellule. Pour toi, ma libellule, bulle qui, d'un air léger, se remplit d'air au cœur d'un phylactère de BD. Fin du préambule, du babobibobule. Car rien de la bulle ne t'est étranger, comme Bathilde, dans le poème d'Albert Samin, tu sais faire naître sous ta main une bulle qui se dessine et conduite avec art s'allonge, se distend, et s'arrondit enfin en un globe éclatant. Elle flotte au-dessus d'un étang où le poisson farceur fait des bulles pour passer le temps. Il bulle. Il n'a pas l'air de s'en faire, de se creuser les globules, ni la vésicule bullaire qui, du pape, conserve les bulles. Hélas, si le pape fait des bulles, il n'a qu'une mule, l'animalcule du Vatican, une bête qui fait i-an, ou une vieille pantoufle jaune comme du papier bulle, qu'on maroufle dehors, dedans, sur de belles affiches de sitting bull, voire de raging bull, car en français j'articule. Il y a aussi des bulles en fer, celles qui tintinabulent, arrachées à un seau pour que les seaux ne sortent jamais de la même eau, une bulle ou un bulldozer, serait-ce au bout d'un chalumeau. Je te sais noctambule, bulle, c'est dans le bulletin. Tu me sais somnambule, bulle, obstinée. J'ai une tête de clou, une tête de bulle. Plutôt que de nous démantibuler, bulle, laissons maintenant les bulles s'envoler, éclore au soleil et nous émerveiller de notre conciliabule. Faisons un concile d'amour, même si je n'ai pas ton niveau, ma bulle. Même si ce poème tourne court et me vaut un zéro, une bulle.
Bravo. Acceptez également la bulle de Gérard Mordillat. Cette année, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême fête les 60 ans de Snoopy et les Peanuts. Vous savez, les aventures de Charlie Brown et de son chien Snoopy qui, de sa niche, regarde le monde. Jeanne Carillon, pour une définition poétique et chantée du mot niche, mot riche, niche, dans toutes ses acceptions. Et sur quel air chantez-vous la niche, Jeanne ?
Biche au ma biche.
Ah, Franck Alamo, c'est ça ?
Tout à fait. Ouais. Niche au ma niche, c'est une cabane confectionnée pour nous les chiens. Niche au ma niche, quand on te renifle, c'est le vrai paradis canin. Coucher dedans, elle a une porte ronde. Dormir dessus, comme Snoopy très souvent. Ça a une odeur de poils mouillés immondes. Mille ou plutôt, idée fixe rentre en plan. Il rêve d'une niche, oh, une niche parfaite pour les caniches. Toutou fragile, feignant et vieux. Niche, oh, une niche pour les chiens de riches. Certainement pas pour les galeux. Chez les humains, il y en a aussi des niches. Pour hommes d'affaires, ministres, présidents. décidément. Ils n'ont pas froid aux miches, ils veulent garder tous leurs abattements, car une niche, oh, une niche, faut qu'on en déniche une pour payer moins d'impôts plein pot. Niche, oh, une niche, toujours pour les riches qui se font de jolis cadeaux. Celle que je préfère, c'est la niche coquine qui fait des blagues, des espiègleries, des facéties, des tourbontés divines. Pourvu que ça rie, jamais on ne se lasse de faire des niches de toutes mes ratiches. Je me fends la poire pour mieux te faire des niches hyper kitsch sur Frédéric Nietzsche. Je me casse le tronc pour mieux te faire des quiches au pois chiche avec un filet de biche. C'est finiche. À la niche!
Autre chose, le jeu des périphraseurs, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. L'art est la manière de transformer une petite phrase claire, pleine de sens, par l'abus de périphrases qui sont des images, des métaphores ou des définitions personnelles. Toutes les méthodes sont bonnes à utiliser. Alors, au départ, une réplique que j'ai trouvée dans Achille Talon et l'Esprit des Lois. Je vous raconte la scène un petit peu. Monsieur Le Funeste, en tenue de randonneur, fait ses courses chez Tout pour le Tourisme. Il pleut à fuir toute idée de balade à la campagne. Cependant, il demande une bombe anti-moustique et Vincent Pourcent, le patron, de répliquer « Avec la météo qu'on a, les moustiques sont trop occupés à nager pour vous causer des soucis. » C'est avec cette phrase que nous allons jouer. Trois périphraseurs. Et en bout de chaîne, Patrick Beignet, chargé lui de retrouver un peu l'esprit et la phrase initiale. Après manipulation par Gérard Mordia, Lucas Fournier et Jacques Jouet, ils ont beaucoup d'imagination, ces trois-là. Alors, est-ce que le sens est passé, Patrick ? Vous venez de découvrir la phrase de départ.
Oui, ben j'ai le sentiment que c'est un autre jeu dans lequel je me trouve.
C'est vrai, un pauvre malheureux. Donc, au début, Gérard Mordia, je vous ai confié, avec la météo qu'on a, les moustiques sont trop occupés à nager pour vous causer des soucis. Il y avait trois substantifs à transformer.
Alors, j'ai choisi météo,
oui,
moustique et souci.
Voilà, c'était les trois, oui. Vous n'aviez pas vraiment le choix.
Bien joué.
Il est très fort. Hein.
J'ai réussi à les trouver, c'est déjà un exploit.
Donc,
météo, la tête dans les nuages, les pieds sur la plage.
Ah, donc déjà, on n'est plus dans la pluie de Le Funeste et d'Achille Talon. On est au soleil, au fond.
On est au soleil,
c'est
comme à Angoulême.
C'est une vision optimiste de la météo.
Moustique.
Ouais.
Mauvaise pensée que les autres piquent sur vous.
Ouais, ça se discute.
Chaque fois qu'un moustique vous pique, pensez que quelqu'un pense du mal de vous.
Ah, c'est ça.
Oui. Ça, c'est le moustique vaudou, un petit peu.
Et les soucis ?
Soucis, à présent, de sombres et hautes chimères.
Oui, c'est Gérard Mordia, ça. Il est comme ça, c'est son univers. Alors, vous glissez vos périphrases dans la phrase d'Achille Talon de Greg.
Je les glisse, et ça glisse très très bien. Mm-hmm. Avec la tête dans les nuages, les pieds sur la plage, les mauvaises pensées que les autres piquent sur vous, sont trop occupés à nager pour vous causer à présent de hautes et sombres chimères.
C'est joli, hein, c'est poétique. Ouais. Lucas Fournier, vous recevez ce texte.
Il y a plus de trois substantifs dans ce texte.
Oui, donc vous avez le choix.
Donc j'ai le choix entre plusieurs noms. Alors j'ai pris trois substantifs ou trois noms féminins. La tête, les pensées et les chimères.
Très bien, très bon choix.
La tête, c'est un sommet qui domine l'Atlas.
La vertèbre, l'Atlas.
L'Atlas, la vertèbre, bravo.
Oui.
One point.
Merci.
Les pensées, là aussi j'ai fait très simple. Fille naturelle des œuvres de Blaise et d'Auguste.
Ah, oui, là il faut réfléchir
il faut
un petit peu,
un
mais
petit
on y
peu,
arrive.
Mais...
Hein, on y arrive.
Vous avez un quart d'heure encore. Et enfin, chimère, château en Espagne qui n'ont rien à voir avec la fiancée de Rodrigue.
Chimène, chimère, oui. Ça n'a pas dû faciliter la tâche de Patrick Beignet en bout de course.
Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai pas reconnu
ça. Ça fait un très joli texte. Hein,
d'autant qu'il y a au moins une tricherie, c'est que Atlas était écrit avec un A majuscule.
Il a fait ça
alors qu'il s'agit de la vertèbre. Comment...
Ah oui.
Et en août, je confesse, tout le monde a l'air de tout comprendre. Moi, j'ai pas compris ce que c'est que fille de Pascal et d'Auguste. Pour définir la pensée
de Pascal, alors Blaise, bravo. Oui, Blaise Pascal, oui. Et Auguste.
Auguste, je sais pas. Auguste, pour moi, c'est avec le cirque.
Ah. Non. Oui. Alors, c'est pas Renoir, c'est Rodin, le penseur.
Voilà.
Les pensées, le penseur.
Ah non, mais vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir compris, Patrick.
Non, mais
ça me rassure.
Bon, glissez vos périphrases dans la phrase qui n'est plus la phrase de Greg, mais qui est devenue celle de Gérard Mordillat.
Alors ça devient. Avec le sommet qui domine l'Atlas dans les nuages, les pieds sur la plage, les mauvaises filles naturelles des œuvres de Blaise et d'Auguste que les autres piquent sur vous sont trop occupées à nager pour vous causer à présent des hauts et sombres châteaux en Espagne qui n'ont rien à voir avec la fiancée de Rodrigue. C'est assez clair.
Ça se tient. À ce stade du jeu, j'aimerais rappeler la phrase de départ. Extraite d'Achille Talon et l'esprit des lois. Avec la météo qu'on a, les moustiques sont trop occupés à nager pour vous causer des soucis. On a perdu l'atmosphère pluvieuse, on est dans quelque chose de plus doux. Soleil, l'Espagne, la plage. Jacques Jouet, vous arrivez en troisième position.
Je n'ai pas très bien compris le texte de Lucas, mais on ne comprend pas, mais on se sent bien. Donc
on a posé sa serviette de plage.
Voilà, alors moi j'ai choisi précisément plage comme premier nom. Ensuite, Espagne.
Oui, pourquoi pas, oui.
Et ensuite, fiancée.
Uh-huh. Mais Espagne, c'est un nom propre, attendez.
Absolument,
ce jeu, on joue avec les substantifs. Non, pas un nom commun, l'Espagne.
C'est effectivement un nom propre, donc c'est un nom. Et je cherchais des noms et je suis tombé sur ce nom. Et je me suis dit oui, non, je me suis dit oui. Voilà.
Bon, soit.
Ouf, c'est passé. Alors, la plage. Plage, c'est la vomissure d'un immense sablier brisé.
Oh non, mais attendez, on était au soleil, là, on était bien, les doigts de pied en éventail.
Il y a de très belles vomissures.
Mais... La vomissure. Vous savez qu'il est à peu près l'heure de déjeuner, là.
Oui, précisément.
C'est la vomissure.
Ça manque de retenue. Hein.
Alors passons à l'Espagne, si vous voulez bien.
Avec plaisir, oui.
Espagne. Andalousie, Aragon, Mancha, Estramadur, Castille, León, Hurdes, Euskadi, Ceuta, Melilla, Balear, Canary, Catalogne, Galice, j'en passe et des meilleurs.
C'est pas faux, on peut rien dire, là.
Alors, c'est peut-être pas complet, mais je l'ai fait de mémoire. Et le mot fiancé,
oui.
Perle à cœur d'or et à chair rose, promise à celle et à celui d'un autre.
Oh, pouvez-nous le redire, celui-là?
Ah, volontiers.
Oui.
C'est mieux.
Perle à cœur d'or et à chair rose, promise à celle, la chair, et à celui, le cœur, d'un autre.
C'est très, très charmant, hein. Vous êtes d'accord?
Ça équilibre avec la vomissure, apparemment. Bon.
Voilà, ça rétablit une ambiance, quoi. Poétique, plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous insérez vos périphrases dans le texte de Lucas Fournier?
Il se passe plein de belles choses.
On va voir.
Avec le sommet qui domine l'Atlas dans les nuages, les pieds sur la vomissure d'un immense sablier brisé... Les mauvaises filles naturelles des œuvres de Blaise et d'Auguste que les autres piquent sur vous sont trop occupées à nager pour vous causer à présent des hauts et sombres châteaux en Andalousie, Aragon, Mancha, Estramadur, Castille, León, Hurdes, Euskadi, Ceuta, Melilla, Balear, Canary, Catalogne, Galice, j'en passe et des meilleurs, qui n'ont rien à voir avec la perle à cœur d'or et chair rose promise à celle et à celui d'un autre, de Rodrigue.
Ah, c'est intéressant, hein. Bon, Patrick Beignet a vous l'honneur de dépériphraser en quelque sorte ce long texte de Jacques Jouet, c'est-à-dire d'arriver à retrouver les périphrases et les mots qui se cachent derrière ces périphrases.
Eh bien, je m'y suis employé, donc.
C'était pas facile, hein.
Non, ça n'a pas toujours été facile. J'ai d'abord cru que ça se passait en Norvège, et puis je me suis dit que c'était plutôt l'Espagne.
Ah, bien joué, bien
n'est-ce
joué.
Pas ouais. Et j'ai distingué quatre périphrases, quatre groupes de mots, on ne peut pas parler de phrases, à vrai dire, hein, que j'ai essayé de débrouiller pour retrouver votre point de départ. Alors d'abord, avec le sommet qui domine l'Atlas dans les nuages, les pieds sur la vomissure d'un immense sablier brisé,
oui.
Comme j'ai été trompé par l'orthographe de Lucas sur le mot Atlas...
J'avais pas mis de H.
Je me suis dit que ça confirmait, comme il y a l'Espagne qui arrive ensuite, tout oui. le monde sait qu'on peut voir l'Atlas, les hauteurs de l'Atlas de l'Espagne.
Oui. Et par
jour de très beau temps, on peut voir même des Pyrénées. Il faut qu'il fasse vraiment très très beau. Et donc, je me suis dit, je ne vous répète pas tous ces éléments, mais ça devait désigner un site des Pyrénées et plus spécifiquement, comme il y avait l'Auguste qui arrivait un peu plus loin, j'ai pensé à un cirque et au cirque de Gavarnie.
Ah.
Donc, c'est quelque chose qui se passe dans le cirque de Gavarnie, un jour où on voit d'Atlas au fond du paysage. Ça, c'était très simple. Je pense que personne ne contestera mon analyse. Ensuite, ça devient plus compliqué. Les mauvaises filles naturelles des œuvres de Blaise et d'Auguste que les autres piquent sur vous sont occupées à nager. Alors là, j'ai eu du fil à retordre. Qui sont ces mauvaises filles de Blaise et d'Auguste? Et à force de réfléchir, j'ai longtemps réfléchi, j'ai conclu que c'était les banderilles. Et donc, celui qui parle, c'est un taureau. Et visiblement, on organise des corridas pendant l'été au cirque de Gavarnie. Et le taureau est là, qui rêve, qui monologue. Et il voit les banderilles qu'on a mises à rafraîchir dans un gave tout proche. Hein. Tout le monde sait qu'avant une corrida, on fait rafraîchir les banderilles. Alors pourquoi
C'est anesthésiant, oui.
Voilà, c'est ça. Alors j'ai conclu, parce qu'il faut rendre compte de tout, ouais. que les banderilles ont été inventées par deux Espagnols qui devaient s'appeler Blaise Lopez et Augusto Alvarez. Voilà, donc tout est en place pour la course de taureaux.
Oui.
La suite, ça va tout seul. Hein.
Ah bah sûrement.
Pour
hein.
vous, donc, ils sont trop occupés à nager pour vous causer à présent des hauts et sombres châteaux. Vous voulez que je relise la liste des royaumes d'Espagne? Peut-être pas. Hein. J'en passe et des meilleurs. Donc, les banderilles qui sont préparées pour piquer les taureaux étant, comme les moustiques, à se dire en passant, les banderilles étant mises à rafraîchir, elles ne peuvent plus causer
du mal,
blessures, voilà,
oui.
C'est ce qui est dit, je ne retrouve plus moi, pour vous causer à présent. Oui, mais vous causant du mal, ça vous cause aussi d'un âge héroïque. Hein. Oui. Les banderilles pour le taureau rêveur à qui nous avons affaire, elles lui parlent des hauts faits du passé, des combats de chevalerie, hein. Et il se dit, ces banderilles, c'est comme des épées qu'un chevalier me planterait sur le dos quand un combat de chevalier du romancero espagnol, hein, qui fait encore rêver tout le monde. Donc voilà, étant mise à rafraîchir, les banderilles ne peuvent plus raconter ces hauts faits. Et enfin, tout cela n'a rien à voir avec la perle à cœur d'or et chair, à chair rose, pardon, promise à celle et à celui d'un autre de Rodrigue. Hein. Donc, en somme, là, c'était le plus simple. Ça n'a rien à voir. Tout ce que les banderilles peuvent raconter, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Chimène. Hein.
Et c'est personne pas faux, hein.
ne me contestera.
Non, on
ne
vous contredit pas, non.
Voilà, donc ça m'a permis de reconstruire assez laborieusement une phrase qui est, je trouve, un début d'épopée. Dans le cirque de Gavarnie, les banderilles ont été mises à rafraîchir. Donc, elles ne sont pas plantées dans notre dos comme les épées des chevaliers d'autrefois. De toute façon, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Chimène.
Ça, c'est vrai.
Et tout ça est parti d'une phrase de Greg, avec la météo qu'on a, les moustiques sont trop occupés à nager pour vous causer des soucis.
Ben, la mienne est plutôt mieux, je trouve.
Et c'est une phrase de qui?
Oui, de qui?
À mon avis, c'est du prochain roman de Philippe Solers.
D'accord. Jeanne Carillon, un hommage chanté aux Charentaises, longtemps fabriquées dans la région d'Angoulême. Les Charentaises, aussi surnommées les Silencieuses, pantoufles accessoires d'un certain héros de bande dessinée créé par Gottlieb. Et elle se chante sur quelle musique, Jeanne Carillon, les Charentaises?
La javanaise.
Oh, ben, on aurait pu y penser, ouais, c'est vrai.
J'avoue, mes pieds en ont porté des pantoufles, en cuir, en laine, en feutre, en verre, quelles pantoufles. On est à l'aise en chaussant des charentaises. Quel doux molleton pour loger ses arpions. Super Dupont les a choisis, ses pantoufles. Les charentaises, c'est ce qu'on fait de mieux comme pantoufles. Il est balèze, poussé par ses charentaises. Quel bidochon, les pieds dans ses chaussons. Les charentaises, vous les trouverez sans problème. Promenez-vous, allez donc à Angoulême. Pas de terre glaise sous les semelles des charentaises, juste des moutons fourrés dans les chaussons. Hélas, la vie les a ternis, mes pantoufles. À force de les mettre tous les jours, elles s'essoufflent. Y a un malaise du côté de mes charentaises, ça pue le poisson, l'intérieur de mes chaussons. Y a de malaise du côté de mes charentaises, j'ai des oignons sous mes petits petons. Il y a trois malaises du côté de mes charentaises. Il y a un pigeon caché sur mes doigts de pion. Il y a quatre...
Ça va, ça va, ça va, ça va.
Merci. Merci.
Vous écoutez France Culture, au micro Françoise Tressard et la bande des Papous dans la tête, en direct et en public du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, espace Franquin. Un moment plus intime, une conversation imaginée par Patrick Beignet, ça se passerait dans un café littéraire d'Angoulême, un échange entre trois passionnés de bande dessinée avec des rôles pour Violaine Schwartz et Lucas Fournier. Patrick.
Oui, c'est un café très littéraire. Vous allez voir. Mm-hmm. Donc je commence la conversation. On avait dit qu'on discuterait la BD aujourd'hui. Je pense qu'on devrait faire porter notre réflexion d'abord sur ses origines, en partant, par exemple, d'un point de vue sémiotique de cette dénomination, la BD.
Ça veut dire bande dessinée, d'après ce qu'on m'a dit.
Eh bien, précisément, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. C'est encore là une de ces approximations qui se sont imposées sans qu'on sache comment. Il est temps d'en faire la critique. Dire que BD signifie bande dessinée, c'est comme si vous prétendiez que la Tour Eiffel s'appelle ainsi parce que c'est le nom de son constructeur, Gustave Eiffel. Mmh. Ou si vous souteniez que la gare de Lyon porte ce nom parce que ses trains vont à Lyon.
Mais les trains de la gare de Lyon vont bien à Lyon, non?
Certains, mais pas tous. Le nom ne vient sûrement pas de là. Prenez la gare Montparnasse. Vous pensez sérieusement que ces trains vont à Montparnasse? Et la gare d'Austerlitz? Vous voyez bien que votre explication ne tient pas. Mais revenons à la Tour Eiffel, puisque vous tenez à en parler. En réalité, son nom vient des initiales d'un jeune homme, François Lelouec, le gendre de Gustave Eiffel. La fille de ce dernier, Ambroisine, était tombée amoureuse de François, jeune pêcheur breton, au cours de vacances passées à Saint-Jacques-de-la-Mer. Elle avait aussitôt voulu l'épouser, mais naturellement, les parents Eiffel étaient opposés au mariage.
Ah oui, dans lequel ils voyaient une mésalliance.
En effet, mais Ambroisine finit par les convaincre. François se révéla un mari parfait, mais aussi un collaborateur idéal pour Eiffel, devenu son beau-père.
Comme quoi, un pêcheur breton peut être bon à quelque chose.
Lucas, je vous rappelle que je suis breton, venez pas m'asticoter. Je reviens à François Lelouette, qui, malheureusement, mourut d'une mauvaise chute en 1888. 1888, c'est-à-dire quelques mois avant l'inauguration de la tour, construite par son beau-père, qui l'avait beaucoup aidé par ses conseils. Aussi, à la mémoire du disparu, Gustave Eiffel proposa de donner à la tour le nom de Tour François Lelouette, qu'elle porta en effet pendant quelques mois. Mais on s'aperçut que cette appellation était un peu trop longue, et le préfet de police proposa de donner à la tour simplement les initiales.
Ah, autrement dit, Tour F. L. François Lelouette.
Exactement, vous avez tout compris, Violaine. Le plus curieux est que personne à l'époque ne prit conscience de la similitude de ses initiales avec le nom de l'ingénieur Eiffel. Ça nous paraît tout à fait incroyable aujourd'hui, n'est-ce pas, Lucas ?
Oui, c'est vraiment incroyable.
Hein. Non, c'est très intéressant. Mais, cher Patrick, quel est le rapport avec la BD, qui est en principe le sujet de notre débat ?
Il est plus grand que vous ne pensez, chère Violaine. Car non content d'être pêcheur breton et collaborateur de Gustave Eiffel, François Lelouette semble avoir joué un rôle important aux origines de la BD.
Je crois deviner ce que vous allez dire.
Ah, moi aussi, et ça m'ennuie déjà. Je trouve que nous devrions privilégier une approche anthropologique.
Une approche anthropologique ? Précisez, je ne suis pas hostile a priori, mais j'aimerais savoir ce que vous entendez par là.
Une approche anthropologique. C'est assez clair, non ? Vous enlisez dans l'anecdotique.
Je vais donner la parole à Violaine, qui a toujours aimé privilégier les approches anthropologiques. Et qui saura certainement le faire aujourd'hui encore. De quoi allez-vous nous parler ?
Alors, je vais repartir de François Lelouette, qui est décidément un sujet inépuisable. Je crois, en effet, qu'il est, sinon aux origines de la BD, ce serait excessif de l'affirmer, surtout dans le cadre d'une approche anthropologique, du moins qu'il y joua un rôle très important.
Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?
J'ai connu une vieille dame, dont la mère avait connu Lelouette, et elle me disait souvent qu'il avait inventé la BD.
Et elle avait toute sa tête, la vieille dame ?
Oh, oui, son mari était professeur au Collège de France. Oh, ça, c'est... Et cette vieille dame ressemblait à la vieille dame de Babar, vous vous souvenez ?
Oui.
Et pour revenir aux origines de la BD, je crois qu'elle avait connu Christophe.
Christophe, le chanteur ? Aline ?
Non, Lucas, c'est pas le chanteur, c'est un autre Christophe.
C'est peut-être son grand-père.
C'est pas impossible, il faudrait lui demander... Mais le Christophe dont je parlais est un des inventeurs de la BD. C'est l'auteur du Sapeur Camembert, du Savant Cosinus et de la famille Fenouillard. La vieille dame disait avoir servi de modèle à une des deux filles Fenouillard, Artémise ou Cunégonde, je ne sais plus laquelle.
Peut-être était-elle la fille de Christophe, alors ?
Mais alors c'était la mère du chanteur ?
Je suis navrée, je n'ai pas pensé à lui demander si elle était la fille de Christophe ou la mère de Christophe. J'étais jeune à l'époque, j'étais très insuffisante, je suis désolée.
Ne pleurez pas, Violaine, on vous en veut pas. À vrai dire, c'est pas une question si importante. Continuez la passionnante histoire de la vieille dame.
C'est vrai, je suis contente qu'elle vous intéresse. Mais j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon qu'elle se référait beaucoup à François Lelouette, qu'elle n'avait pas rencontré elle-même, mais que sa mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait très bien connue.
Non, alors, vous avez rappelé que Lelouette est mort en 1888. Or, si mes souvenirs sont bons, les premières planches de Christophe paraissent en août 1889. C'est le début de l'admirable famille Fenouillard, qui commence donc ses aventures l'année de la Tour Eiffel. N'est-ce pas étonnant, non ?
Le rapprochement est frappant.
Oui, mais que signifie-t-il ?
Au moins une chose, mon cher Lucas, et une chose considérable à mes yeux, c'est que Lelouette était mort au moment où Christophe publiait ses premières planches. Il n'a donc plus les connaître.
Sauf si Christophe et lui étaient liés, ce que croyait la vieille dame. Parce que sa mère lui avait dit qu'ils étaient tous deux nés la même année, en 1856, et qu'ils étaient de grands amis depuis l'école. Mais Lelouette était né à Saint-Jacques-de-la-Mer, près de Saint-Malo, et Christophe, dans la Haute-Saône, n'ont pas pu se rencontrer enfant. Non, je crois que la vieille dame disait n'importe quoi, finalement. Je n'ai pas éclairé les origines de la BD, je suis désolée.
Mais c'était très intéressant dans le cadre d'une approche anthropologique, ce qui était notre propos.
Allez, et maintenant, buvons, car l'affaire était chaude. Hein.
On va les laisser débattre entre eux. Hein. Lucas Fournier, Hervé Le Tellier en correspondance, lettre inattendue entre deux personnalités des arts et lettres, deux hommes qu'a priori tout oppose, qui n'ont pas même partagé un bout de siècle. Et pourtant, ils ont échangé des idées, voire des projets. Lucas Fournier, vous seriez...
Je suis Homère.
Le grand.
Le grand.
Le seul, le vrai.
Homère.
Oui. Et il écrit à qui, Homère? Et
alors, j'ai écrit à monsieur Homère Simpson, CEO centrale nucléaire de Springfield, Amérique.
La famille Simpson.
Des Simpson.
Ouais. Et vous avez des choses à lui dire?
Beaucoup.
Alors?
Dicitur, Homérum, caecum, fuissé. On dit qu'Homère était aveugle, mais moi, Homère, le poète, je sais ouvrir les yeux. Et je te vois, toi, Homère Simpson de Springfield, avachi devant la télévision, buvant ta bière et borborisant entre deux rots. Et je dis, Homère Simpson, tu coquais mi fili, tu es un coq, mon fils. Et je dis, entre ici, Homère Simpson, entre dans mes Champs-Élysées, entre dans ce Sunset Boulevard, à nous les Grecs illustres. Je dis, moi le poète, aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, des aèdes, praxitèles, des philosophes, des orateurs, des acousquis. Ici, jamais de drachme. Ici, chacun a toujours l'Hélène fraîche. Je dis, moi, Homère, depuis des siècles, j'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à ce que tu surgisses dans ma vie, comme une source printanière, toi, l'enfant de Springfield. Oui. L'omerta s'était abattue sur Homère. Je n'étais rien. Tellement plus rien que la chronique Wikipédia, chant 31, prétendait que je n'existais pas. Seul resplendissait la gloire ingrate de mon fils, Ulysse. Le fils, c'est la mort du père, comme dit Boris Cyrulnik. Et tu le sais, toi aussi, avec ton Bart, mon pauvre mère. Je dis, je t'aime, toi, mon Homère Simpson. Tu es l'anti-Ulysse. Tu ne cherches pas à faire ton intéressant en séduisant des fées, en défiant les dieux et les tempêtes, en faisant bovariser pendant 10 ans une épouse hystérique. Toi, Homère Simpson, tu incantes « Mens sana in corpore sano », la bière et la télé. Ah, si Ulysse était resté à regarder la télévision, on en parlerait un peu moins. Mais revenons à moi, car au fond, il n'y a que ça d'intéressant. Je dis, moi, le poète, j'ai été dévoré par mes créatures, ces nouveaux minotaures. J'ai l'Hélène qui me peine et l'Ajax qui m'agace. Ménélas, il me lasse, et l'Achille, les débiles. Le Cyclope, j'y dis stop, chez l'Hector qui me perfore, et Circé, Caissintré, les Troyens, bon à rien, le Caribe, Ancilla, Télémaque qui me patraque, Caménon, j'y dis non, les Atrides, il m'attriste, Tirisias, je m'en passe, Nausicaa, c'est un cas. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être un poète Hélène. Ah mon Dieu, c'est embêtant de venir du Parthénon. Je dis, moi, Homère, le monde ingrat des mortels avait oublié jusqu'à mon nom. Tous mes collègues des Champs-Élysées sont célébrés, et moi, je demeure innommé. Il y a des lycées Philippe Labreau, il n'y a pas de lycée Homère. Leonardo da Vinci a son best-seller, Goethe un institut, Socrate a donné son nom à un footballeur brésilien, Socrates. Le philosophe Platon a été choisi par Hollywood pour une ode contre la guerre. Mais d'Homère, point. Et soudain, dans un berceau de brume, par une aurore aux doigts de rose, tu es apparu, toi, nouvelle Homère, sans œufs à la fin, mon cher fils, avec la grâce élastique de ton nom, avec ce front élevé, où les nobles pensées à la douceur du miel s'épanouissent, comme les argiraspides au bord du lac de Stymphal, et cette progéniture barque, Lisa et magie, que les dieux de l'Olympe ont fécondée dans le ventre prospère de ton épouse, la chaste Marge. Et je dis que grâce à toi, enfin, le nom d'Homère est revenu dans la cour des écoles et dans les gymnases des musculeux adolescents. Je Poséidon, j'enlève Hélène et je retiens 3. De l'Homérique à l'Amérique, il y a place pour 2 Homères, Homère le Grand et toi, Homère Petit, qu'importe si tu as perdu ton nœud, on ne fait pas d'Homère sans cacher des œufs. Homère Simpson, viens, mon fils, viens, mon sang, je t'attends aux Champs-Élysées.
Oh, c'est une belle lettre. Hervé Le Tellier, est-ce que Homère Simpson répond
Pas tout à fait.
Ah bon?
En fait, cher Homer, c'est avec une joie extrême que je reçois votre missive. Je n'ignore pas qu'elle était initialement destinée à un certain Homer Simpson, mais le préposé aux missions postales en costume bleu me l'a transmise car elle n'était pas suffisamment oblitérée. Le cuistre a tapoté à ma fenêtre jusqu'à me titiller la glande de la sauvagerie, mais qu'importe. J'ouvris donc votre lettre et une voix mystérieuse au plus profond du dedans de moi-même me susurra que de ce petit bout de papier pourraient bien jaillir des événements saisissants. Foi d'Achille Talon, me suis-je proféré en mon fort intérieur. Il ne sera pas dit que cette belle lettre reste sans réponse. Et ce prénom, Achille, dont ma maman m'a doté, ce qui fait de moi son chichi à elle, ce prénom, disais-je, était sans doute le présage d'une telle correspondance. D'autant que si Homer Simpson était votre destinataire, le quidam et aussi, de la vie générale, un insubmersible prototype d'imbécilité, ce qui n'est pas mon cas, je vous l'assure. Pour finir, si Ulysse fut inventé par un grec, savez-vous que je le fus par un grec ? Vous l'avouerai-je ? Un léger nuage d'incertitude a d'abord flotté dans l'azur immaculé de mon assurance habituelle. Vous, le poète, l'aède, l'homerus dicitur caecus fuisse de nos pages roses, celui qu'on ne doit pas confondre avec l'humérus, sous faute de risquer le cousinage avec Cubitus, un gros chien blanc placide, héros d'un journal concurrent. Vous donc, vous, Homer, m'invitez à vos Champs-Élysées, je trépigne de joie. Les murmures d'incrédulité qui d'abord m'agitèrent me beurrent désormais le cœur de gratitude. Mais après un après-midi succulemment calme où j'ai savouré goulûment quelques pages frétillantes de votre odyssée, je puis vous le dire, mes bagages sont prêts. Homer, me voici. Nous parlerons ensemble de vos projets littéraires. J'ai quelques idées stupéfiantes propres à vous exalter l'intellect. D'autant que je lis, cher Homer, que vous avez vécu seul, sans personne à qui parler. Savez-vous que j'ai pour ma part un voisin, abominable, Hilarion le funeste, un individu que je préfère oublier tant la simple évocation de son stupide patronyme fait faire à mon intérieur des nœuds à en humilier un marin. Mais sois sage, ô ma fureur, voici que je parviens à garder mon calme dans un contexte où le plus sage des moines des lamasseries tibétaines se mettrait à mordre les murs. Je suis ainsi prêt à voguer vers des rives lointaines et l'isolement propice aux somptuosités que je médite. Bien à vous, Achille Talon.
Oh, il écrit très élégamment, je trouve.
Il écrit comme il parle.
C'est vrai. Jeanne Carillon, c'est à vous pour une rêverie chantée sur un accessoire fétiche des célèbres Dupont et Dupont, dont Tintin, c'est le chapeau melon. Alors, vous l'imaginez sur quel air connu, Jeanne, ce melon des Dupont ?
Takati Takité.
Bobby Lapointe. Pas facile à chanter, ça ?
Pas facile. Ce soir au bar, deux gars à moustache noire s'affalent, pleurnichent tout le long du comptoir. Car leur chapeau, leur joli chapeau tout beau, vient d'être volé, leur melon est volé. Ils ont fait chou blanc, ont bu trois verres de vin blanc. Ils sont vraiment perdus, désespérés, ulcérés et sidérés. Qu'on le leur ait piqué, qu'on le leur ait chouré. Le melon des Dupont est rond, est rond. Le melon des Dupont est rond, patapon. Allons le long des ponts, longeons à reculons. Talonnons les félons, tenons un bon filon pour trouver leur melon. Vive la corruption, les fripons au pilon. File les sanglots longs, éloignons les violons. Les flonflons, les tromblons, des Dupont. Retrouvons leur melon, retrouvons leur melon. Retrouvons leur melon, retrouvons leur melon. Pendant ce temps-là, une nana super nana se tenait toute nue devant une salle baba, bavant, braillant, bavassant et gémissant à cause de beaux mamelons, de jolis beaux mamelons. Voilà que les Dupont débarquent par le balcon, les trublions, quel furibond, bondissent sur scène, ah mon Dieu que c'est obscène, et se ruent sur les nichons, les jolis beaux nichons. Les melons des Dupont sont ronds, les melons des Dupont sont ronds, patapons. Les melons des Dupont forment un polochon, doux comme un édredon. Les Dupont sont de sacrés cochons, de fieffés et talons qui jouent à saute-mouton. Donnons-leur une leçon à ces deux trublions. Donnons-leur une leçon, ça n'est plus la saison, ça n'est plus la saison. La saison des melons, c'est la saison des nions, la saison des marrons, la saison du bâton, qu'ils auront les Dupont, qu'ils auront en pleine face, du côté du menton. Les Dupont sont poltrons, prenons leurs pantalons. Pour qui sont ces melons? Ils sont pour les Dupont. Les Dupont sont ronchons, et même sans pantalons, mais avec leurs melons, c'est toujours les Dupont. Vive le melon des Dupont, vive le melon des Dupont, vive le melon des Dupont.
L'heure du DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle sur France Culture pour les papous dans la tête, en direct et en public du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors voilà, Lucas Fournier, j'allais dire Chournier, ce serait pas très joli. Lucas Fournier, je fais comme la Castafiore. Lucas choisit tout spécialement pour l'occasion un petit morceau de littérature d'une minute environ à la lecture, et lui seul sait qui en est l'auteur. Quatre experts, Jacques Jouet, Gérard Mordillat, Patrick Beignet et Hervé Le Tellier, oui, distribuent le texte, Lucas, tenteront de déterminer son époque d'écriture, sa langue d'écriture, et prendront le risque de donner le nom d'un écrivain qui pourrait en être l'auteur. C'est un jeu difficile pour l'amour propre, on se trompe souvent. Évidemment, Lucas Fournier a choisi un texte de circonstance, je suppose. Vous nous faites la lecture, Lucas.
Un texte qui parle de bande dessinée et de charentaise.
Ah.
D'un auteur célèbre.
Oui.
La petite revenait vers notre table en courant. « D'où sors-tu ? » demanda Newman. « Je suis allé voir les albums de Pomme d'Api chez le libraire. » Elle était essoufflée. Newman lui prit le ballon des mains. « C'est bientôt l'heure de retourner sur la plage, » dit-il. « Pas tout de suite, » dit la fillette. Et s'approchant de Newman, « Gérard, est-ce que tu peux m'acheter un album de Pomme d'Api ?»« Gérard ?» Elle baissait la tête, intimidée. Elle rougissait d'avoir osé lui demander l'album. « D'accord, d'accord. À condition que tu ne manges pas de sucreries cet après-midi. Tiens, prends-en trois des albums. On ne sait jamais. Il faut faire des provisions pour l'avenir. » Il fouilla dans sa poche, en sortit un billet de banque froissé et le lui tendit. « Tu me prendras plaisir de France. » « Trois albums de Pomme d'Api ?» demanda la fillette étonnée. « Oui, trois. Merci Gérard. » Elle se jeta dans ses bras et lui embrassa les deux joues. Elle traversait en courant l'esplanade du casino. « Tu t'appelles Gérard maintenant ?» lui demandai-je. « Oui, si on change de nom, autant changer de prénom par la même occasion. » Sur l'avenue, à notre droite, un homme apparut, le teint rouge et les cheveux gris coiffés en brosse. Il marchait d'un pas sec et régulier, vêtu d'une veste d'intérieur marron, d'un pantalon bleu et chaussé de charentaise.
Alors toute la question est là, qui a bien pu écrire ce morceau de littérature pris un peu au hasard, mais pas tout à fait, par Lucas Fournier? Alors j'aimerais bien avoir un premier avis de nos experts, avec des arguments littéraires, s'il vous plaît. Patrick Beignet, par exemple.
Ben c'est un genre un peu codifié, le monsieur et la petite fille, hein, ça a donné lieu à beaucoup de littérature dans certains romans très célèbres. Je trouve ça un peu maladroit, mais c'est rapide, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Voilà, il y a un côté, bon, ça peut devenir, je suppose que c'est un début de roman, enfin, pas le début, après quelques pages, et bon, c'est plein de possibilités, on sent que ça va
déboucher sur quelque chose, sur une histoire.
Voilà.
Hein ? Premier point de vue, Jacques Jouet ?
Il y a beaucoup de personnages.
Oui.
Il y a beaucoup de personnages et en plus ils changent de nom. Alors c'est très très difficile à suivre. Ça doit être un roman d'avant-garde, je pense.
Ouais, Newman devient Gérard. Oui.
Il s'appelait Paul Newman d'abord, puis il est devenu Gérard Newman. C'est très étrange. Et puis il y a ce nous là sur l'avenue à notre droite. Alors brusquement le narrateur dit nous, c'est étrange. Et puis un nouveau personnage apparaît qui n'a pas encore de nom. Alors c'est assez passionnant. Hein.
Le narrateur disait notre dès la première ligne.
Oui, il était déjà pluriel. Oui. Gérard Mordillat, qu'est-ce que vous pensez de ce morceau-là ?
Ben, c'est un morceau qui doit être arraché d'un magazine, parce que c'est écrit à la va comme je te pousse. Mais
on verra plus tard.
Une sorte de dimension policière et un peu pédophile. Donc, parce qu'entre les plaisirs de France et la petite fille qui prend le ballon... Voilà, puis il l'embrasse ensuite
non,
sur les deux joues.
Carton jaune, là.
Bah, non, c'est
j'ai demandé
dans le texte.
Des arguments littéraires.
Elle se jeta dans ses bras, elle lui embrassa les deux joues. La petite fille qui se jette dans les bras de Newman. J'ai pas vu le film, mais bon. Non, je trouve que c'est réellement écrit comme ça vient, et ça me fait penser à un texte comme l'en publient les journaux qu'ils commandent pour l'été aux écrivains. La vraie question est de savoir si c'est un homme qui écrit ou si c'est une femme.
Ah, ça viendra plus tard. Hervé Le Tellier.
Je pense que Gérard est marqué par le prénom qui apparaît dans cette histoire.
Il doit
se sentir un petit peu gêné aux entournures, devoir connaître une scène qu'il a peut-être vécue, ma foi. Tous les arguments avancés par mes camarades sont justes. Effectivement, c'est sans doute un roman qui ne commence pas, qui commence quelques pages plus tôt. Et le texte ne me semble pas littérairement, pour l'instant, présenter toutes les formes d'un livre classique, c'est-à-dire quelque chose qui serait retenable. Oui, il y a une sorte de... C'est pas du Sartre, par exemple, ou alors je ne sais pas quel livre de Sartre citerait Pomme d'Api.
c'est une bonne question.
Mais c'est peut-être dans les mots. Il y a trois mots dans Pomme d'Api. Donc c'est peut-être dans les mots. Non, c'est un. Je suis pas tout à fait certain pour autant que l'auteur soit si négligeable que cela dans sa place dans la littérature. C'est pas si ça va vite quand même. Il n'y a pas de fioriture. Et puis si on change de nom, autant changer de prénom par la même occasion. C'est quand même une jolie petite phrase, quoi. C'est pas mal ça. Mais bon, c'est pas du Céline. Je sais bien que on en parle beaucoup, mais c'est pas de lui ça.
Oui, Gérard.
Non, mais c'est pas non plus du Brasillac.
On ne va pas dire tout ce que ça n'est pas. Rebattet. C'est pour le moment, on analyse, s'il vous plaît. Patrick Beignet, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dater?
Oui, il y a les titres de revues,
les albums de Pomme d'Api.
Et puis plus intéressant, oui, Plaisir de France.
C'est quoi,
si je me souviens bien, c'est une revue un peu genre culturelle qui devait exister dans les années 50-60, qui a dû sombrer au début des années 70.
Ouais.
Donc, c'est pas du tout le côté équivoque que Gérard voulait y voir. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la petite fille, évidemment, elle s'en moque totalement de Plaisir de France. Elle revient illico à Pomme d'Api. Et moi, je vois tout à fait le personnage qui apparaît à la fin. L'homme au teint rouge qui marche d'un pas sec en charentaise, je sais pas comment on fait. Hein. Visiblement, pour moi, il va au bureau de tabac acheter le seul exemplaire de Plaisir de France qui arrive dans cette petite ville, et Gérard ou la petite fille vont le lui souffler, il sera pas content. C'est peut-être le début des séquences violentes du livre. Donc pour moi, c'est Pomme d'Api et surtout Plaisir de France, ça date ça, c'est, on pourrait dire, les années de Gaulle, disons.
Bon, alors ça, c'est un argument irréfutable, on ne peut pas dire que c'est du 19e siècle, Jacques Jouet.
Bah, vous savez, des pommes, il y en a dès la Genèse, donc c'est sans doute postérieur à la Genèse.
Ça, c'est, ouais. Resserrons la fourchette, s'il vous plaît.
Maintenant, c'est récent, oui, bien sûr.
Ouais.
C'est même très récent, parce que c'est quelqu'un qui... C'est un texte un petit peu autobiographique, donc qui remonte à son enfance. Donc ça, je pense que ça a été écrit avant-hier.
C'est un scoop, alors, pour les papous dans la tête. Gérard.
Oui, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est écrit très récemment par un auteur qui, justement, a des enfants, donc qui achète Pomme d'Api, sans savoir comment connaître Pomme d'Api.
C'est assez connu, quand même.
Oui, voilà. Alors, moi, Plaisir de France, je pensais que c'était Jour de France de Marcel Dassault.
Non.
Aucun rapport.
Aucun rapport. Non. Donc, non, je dirais que c'est un livre qui a été écrit aux alentours des années 90, et même plus tôt que ça encore, enfin plus près de nous encore.
Donc on est entre les années 50 et les années 2000. Hervé Le Tellier, est-ce que c'est un texte écrit en français directement?
Ah oui, un prénom comme Gérard, ne laisse aucun doute sur la question.
Et qu'est-ce que vous faites de Newman?
C'est comme Hervé. Newman est un nom international, c'est même, je ne sais pas si vous savez, c'est une marque de pantalon. Je pense que ce texte a des années, effectivement, les années de Gaulle me paraît être une bonne fourchette, si j'ose dire. Ouais. Je dirais 63, peut-être mai 63. Alors, qui est en activité en mai 63? Ça, c'est une autre question. Je vais réfléchir pour avancer un
D'accord. Alors, mais vous savez
c'est ma date.
Il va falloir réfléchir très vite. Donc, c'est un texte écrit directement en français pour vous quatre. La fourchette, c'est entre les années 50 et maintenant, et nos jours. Est-ce que vous avez un nom à avancer, Patrick Beignet? C'est un diagnostic littéraire express aujourd'hui.
Oui, écoutez, je vais vous donner le nom, mais ce qui permet de dater, c'est, à mon avis, c'est après Lolita et après Zazie dans le métro, tout à fait dans les années de Gaulle.
Oui.
Et je me demande si quelqu'un comme Christiane Rochefort n'a pas pu écrire... Enfin, elle a écrit des choses de ce genre-là.
Il y a des gens dans la salle qui ont dit oui. Oui, vous êtes d'accord.
Donc,
très bien, nous avons un Christiane Rochefort. Un. Qui veut se prononcer, Jacques Jouet?
Oui, je veux bien. Bah, écoutez, en regardant d'un peu près la subtilité de l'écriture... Moi, je dirais que, et que le fait que je maintiens que c'est tout à fait récent, je pense que c'est du Houellebecq.
Ah ouais. Bon, Houellebecq, soit. J'ai rarement dit.
Bien, je continue de penser que c'est peut-être écrit par une femme avec une dimension policière et c'est peut-être un des premiers textes de Fred Vargas.
Ah! Oui, pourquoi pas. Oui, des réactions dans la salle, j'entends. Et pour vous, Hervé Letellier?
Alors...
Ouais. Mais encore.
C'est-à-dire que c'est pas, je pense que ce n'est pas un auteur que j'ai lu. Mais j'en suis pas... Mais ça, il ne faut surtout pas dire ce genre de choses.
Non,
moi, je ne sais pas qui avancer. Peut-être l'auteur des gommes, pour... Rob Grillet, allez.
Rob Grillet,
c'est Plaisir de France et Pommes d'Api. J'adorerais que Rob Grillet ait cité ça dans un roman.
Alors donc, Lucas Fournier, on vous propose un Christiane Rochefort pour Patrick Beignet, un Houellebecq pour Jacques Jouet, un Fred Vargas pour Gérard Mordillat, un Alain Rob Grillet pour Hervé Letellier. Est-ce que dans la liste des trois noms que vous avez à nous soumettre figure l'un d'entre eux?
Dans la liste sur les quatre, il y en a zéro.
Bon, vous avez perdu. Qu'est-ce que vous nous soumettez?
Alors, je vous propose trois noms par ordre alphabétique. Fitzgerald.
Scott Fitzgerald. Ah ben, Newman.
Modiano.
Tendre et la nuit, se passe en France, je vous rappelle.
Oui. Et Sagan. Donc, je répète, Fitzgerald, Modiano, Sagan.
Voilà, vous avez 2 minutes pour dire un nom et pourquoi.
Justifié.
Patrick Beignet.
Sagan, Fitzgerald et...
Modiano.
Je dirais Modiano, parce que... Oui, voilà.
C'est un argument.
Cache ta joie.
Pour moi, le centre de ce texte, c'est Plaisir de France. Ça doit toucher quelque chose en moi, des souvenirs d'enfance ou de jeunesse. Et voilà, il y a un côté toc.
Très bien. Pas, voilà. Modiano, Jacques Jouet.
On prend pas en mauvaise part. Hein.
Jacques Jouet.
Alors, s'il faut vraiment que ce soit l'un des trois...
Vraiment.
Écoutez, je suis à peu près persuadé, mais seulement à peu près, que c'est du Fitzgerald.
Ah, voilà, oui. Gérard.
Eh bien, moi, je vais continuer sur mon hypothèse féminine et dire Françoise Sagan.
Voilà, les goûts se partagent. Il est certain qu'il y aura un gagnant.
Ah, donc, oui.
Hervé Letellier.
Peut-être un seul, d'ailleurs, parce que moi aussi, je vais choisir Sagan. Donc, je vais dire Sagan. Je ne vois pas du tout ni Modiano ni Fitzgerald écrire ça. Par défaut, je prends Sagan.
Alors, Patrick Beignet choisit Patrick Modiano, Jacques Jouet, Scott Fitzgerald, Gérard Mordillat, Hervé Letellier, Françoise Sagan. Nous avons forcément un ou deux gagnants. Qui sont-ils? Qui est-il, Lucas?
Il y a un gagnant. Le texte n'est pas un début de livre, c'est tout à fait la fin d'un livre qui s'appelle « De si braves garçons » qui a été écrit en 1980 par Patrick Modiano, qui retrouve ses anciens camarades de pensionnat oubliés 20 ans avant.
Oh ben, bravo Patrick Beignet, bravo à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur analyse, Lucas?
Je les ai trouvés brillants, comme d'habitude. Un peu faible sur la conclusion, c'est tout.
Allez, dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, spéciale bande dessinée. Le jeu des suppositions, une histoire brève à partir d'un nom, avec une chute en forme de calembour. Lucas Fournier, c'est à vous de conclure.
Pour Jeanne et Jacques.
Oui.
Supposez, Jeanne et Jacques, que vous vous appeliez Si...
C'est un joli si. Nom, si.
Pas si, comme si impératrice, mais si, comme si, pas comme ça. Mm-hmm. Vous n'avez pas le sou, si. Mais elle, elle rêve d'être mère.
Si. Si.
Alors toi, tu officies, si. Et veni, vidi, vici. Vous voici les si déjà à la maternité. Et l'enfant paraît. Te voilà père, si. C'est un garçon. Ah, tu l'appelleras Tintin. Oh, mais c'est pas fini. La sage-femme revient. Vous en avez encore deux autres. C'est réussi, si. Bravo. Bon, ben, on les appellera Kik et Fluk. Si, maman, si. Si, maman, si. Elle n'a pas fini. En voici trois nouveaux. Trois, si. Bon, ben, pim, pam, poum. Mais vous avez fait comment, si? La siciparité ou le siège à la sicilienne? Ah ben, en tout cas, voici encore quatre nouveaux bébés. Joe, William, Jack, Avrel. Et ça continue, encore et encore. Maman si n'est pas décidée à mettre un bémol à tous ces petits si. On va bientôt manquer de berceaux. En voici, Titeuf, Cédric, Jules, Nathalie, Tom Tom et Nana. Et les si, c'est plus une famille nombreuse, c'est une horde de petits si. Si mignons qui s'immiscent partout, une série illimitée. Mais que se passe-t-il, maman si? Quelle est cette énigme scientifique? Comment avez-vous fait? Et vous, les si, tout naturellement, vous répondez, mais c'est naturel, la bande des si naît.
Ah.
C'était Des papous dans la tête, en direct et en public du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Espace Franquin. Et c'est fini, une émission proposée et présentée par Françoise Tressart. Équipe technique et de réalisation, Claude Giovanetti, Adrien Gaza, Sébastien Huel, Stéphane Foulon, chargé de production, Dominique Allard, chargé de la communication, Virginie Noël. Remerciements aux équipes techniques et à l'accueil de l'espace Franquin. Voilà, rendez-vous dimanche prochain pour de nouveaux papous dans la tête. En attendant, vous pouvez podcaster l'émission du jour sur le site de France Culture. Nous vous souhaitons un très bon après-midi sur France Culture. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était un dimanche après-midi, les papous de Françoise Tressart en direct d'Angoulême, et c'était le 30 janvier 2011 sur France Culture.